L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et la RTBF. Et d'abord aujourd'hui, cette affaire au Canada. Le ministre de l'Environnement a cédé aux pressions de la multinationale Glencore. Sami Rebaïn, il a renoncé à renforcer les contrôles sur l'importation de déchets électroniques.
Oui, selon des documents obtenus par Radio-Canada, malgré les risques environnementaux et ceux pour la santé publique, le ministre de l'Environnement s'est laissé convaincre par des préoccupations économiques.
C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, Nicolas Sûr.
Ces trois pays dirigés par des juntes militaires accusaient la CEDEAO, modèle d'intégration en Afrique en garantissant la liberté de circulation des personnes et des marchandises, d'être à la solde de la France.
Ce projet aussi du gouvernement suisse, s'il arrive à ses fins, les couples suisses ne pourront plus adopter d'enfants à l'étranger, Pierre Anchoffa.
Interdire pour éviter les abus du passé et protéger les enfants, une posture qui ne convainc pas, alors qu'à peine 30 dossiers d'adoption à l'international aboutissent chaque année dans notre pays.
Deux jours de grève dans l'enseignement francophone en Belgique, c'était en début de semaine. Jacques Kremers, les enseignants dénoncent les réformes annoncées par le gouvernement francophone.
Oui, l'action a été plutôt bien suivie. Les enseignants dénoncent une réforme de l'enseignement qualifiant, des contrats à durée indéterminée pour les nouveaux collègues au lieu de nomination. 30 000 d'entre eux ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Bruxelles.
Enfin, la Joconde, bientôt plus chère. Dès l'année prochaine, les touristes non européens devront débourser un peu plus pour voir Mona Lisa au Louvre à Paris. Une augmentation dans le cadre d'un vaste projet de rénovation pour le musée. Vous entendrez ce qu'en pensent les principaux intéressés. La multinationale Glencore a donc fait plier le ministre canadien de l'Environnement. Le Canada n'ira pas de l'avant avec les amendements de la Convention de Bâle des Nations Unies. Il s'agit, Samy, d'un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des déchets dangereux.
C'est exact, Olivier, parce qu'environ 100 000 tonnes de déchets électroniques entrent au Canada chaque année depuis l'étranger pour être recyclés. On parle ici par exemple de cartes de circuit imprimées, des dispositifs d'affichage et tout équipement qui contient une substance toxique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le traitement de ces déchets par la fonderie qui appartient à Glencore occasionne des émissions polluantes, entre autres de l'arsenic, qui excède les limites autorisées de qualité de l'air. Mais le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, soutient que le produit fini est indispensable pour la transition énergétique du pays. Le voici.
C'est la seule usine en Amérique du Nord qui peut produire cette composante-là dont nous avons besoin dans l'électrification des transports. Et si ce n'est pas eux, ben c'est soit plus de pétrole ou on fait venir ces composantes-là de la Chine, qui à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de droit de la personne, pose un certain nombre d'enjeux.
Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, donc. Alors, Samy, l'entreprise Glencore a fait valoir qu'imposer des permis à toute importation, transit ou exportation de déchets électroniques serait trop contraignant et nuirait à sa compétitivité.
Voilà, l'entreprise admet que son modèle économique repose de plus en plus sur le traitement de ses déchets. Glencore a dit au gouvernement canadien que ça pourrait même remettre en question son investissement de 750 millions de dollars, donc environ 500 millions d'euros, pour réduire ses émissions polluantes et même conduire à la fermeture de sa fonderie. Glencore veut donc augmenter la cadence et recycler encore plus de déchets électroniques. Mais d'après nos sources, il s'agirait d'arguments exagérés.
Encore une question, Samy, comment réagit la société civile ?
Eh bien, on se doute bien qu'elle n'est pas très enchantée, d'autant plus que la fonderie en question était déjà impliquée dans une controverse qui implique des rejets de déchets polluants. Je vous propose d'écouter la réaction de Laure Varidel, c'est une éco-sociologue et environnementaliste.
Cette décision est absolument inexcusable. Notre ministre de l'Environnement accepte de participer à une forme de chantage qui va permettre à cette entreprise-là de maximiser ses profits aux dépens de la santé de la population.
Et en terminant, Olivier, le gouvernement indique que la question n'est pas encore tranchée définitivement, que des consultations seront menées cette année pour d'éventuels changements aux règles qui concernent le marché des déchets électroniques.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'appartiennent plus à la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, trois pays désormais regroupés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ils étaient en guerre ouverte contre la CEDEAO qui avait pris des sanctions ou menacé d'intervention militaire après les coups d'État. Nicolas, la communauté ouest-africaine annonce toutefois vouloir maintenir le dialogue.
Oui, la CEDEAO annonce que les avantages qui existent dans l'espace communautaire continuent pour le moment à s'appliquer à ces trois pays. Les passeports CEDEAO des citoyens de l'AES restent valables, les droits de libre circulation et d'installation sont maintenus, les exemptions de douane pour les biens et services aussi. Objectif, éviter une rupture brutale. La CEDEAO laisse par ailleurs 6 mois au Niger, au Burkina et au Mali pour revenir sur leurs décisions, une proposition déjà balayée par les intéressés.
Alors la CEDEAO et les pays de l'AES doivent désormais négocier les formalités de retrait. Nicolas, de quoi s'agit-il ?
Le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée, tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES et aux entreprises installées dans les pays de la CEDEAO et inversement. En jeu également les programmes menés par la CEDEAO dans les trois pays. Agriculture, infrastructure, ils sont nombreux. Enfin, comme les pays de l'AES ne quittent pas l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les pays utilisant le franc CFA, la libre circulation des marchandises et des biens reste acquise avec ces pays, mais pas avec le Nigeria et le Ghana, deux des poids lourds économiques de la CEDEAO, qui ont leur propre monnaie.
L'accent des autres.
En Suisse, le gouvernement veut donc interdire purement et simplement l'adoption d'enfants à l'international. Il veut ainsi, Pierre-Han, éviter les irrégularités constatées par le passé.
Oui, le Conseil fédéral avait déjà exprimé ses regrets en 2020. Il avait alors reconnu les manquements des autorités à propos du scandale le plus spectaculaire en matière d'adoption. Les fermes à bébés du Sri Lanka, dans les années 80, des femmes étaient exploitées par des réseaux de trafiquants pour littéralement produire des bébés vendus ensuite jusqu'à 15 000 francs à des couples occidentaux. Plus de 800 l'ont été en Suisse. Aujourd'hui, le gouvernement est arrivé à la conclusion que l'interdiction serait le meilleur moyen d'éviter d'autres abus, sur cette conviction du patron de la justice, Bert Jans.
Il n'y a pas de droit à l'adoption, il n'y a pas non plus de droit à l'enfant. Par contre, le droit existe pour chacun de connaître ses origines.
La protection de l'enfant prime donc sur le désir de parentalité.
Et c'est une décision, Pierre-Han, draconienne qui fait évidemment réagir.
Renforcer les contrôles et limiter l'adoption à des pays jugés sûrs, telle serait l'alternative. L'élu conservateur Mauro Poggia est sévère avec la position du gouvernement.
La proposition exprime une lâcheté de nos autorités qui, pour éviter les problèmes, décide tout simplement de ne plus permettre à des personnes de faire le bien et de le faire avec le cœur. Il faut évidemment faire que les irrégularités qui ont parsemé le passé récent ne se reproduisent plus et, le cas échéant, écarter les pays qui ne sont pas dignes de notre intérêt.
Directrice de l'association Mosaïque Adoption, Jenny Sou craint que l'interdiction dope le marché noir de l'adoption.
Vraiment, on a très peur de ça, que les adoptions vont se faire à l'étranger, vont se monnayer encore plus cher. Il y aura tout un marché parallèle qui va se mettre en place.
Le projet de loi attendu pour fin 2026 sera donc disputé. D'ici là, les adoptions d'enfants à l'étranger restent possibles.
En Belgique, 30 000 enseignants ont manifesté à Bruxelles en début de semaine. Une manifestation, mais aussi 2 jours de grève dans les écoles. Un mot d'ordre plutôt bien suivi pour dénoncer les réformes voulues par le gouvernement francophone de Belgique, Jacques.
Oui, syndicats, enseignants, élèves, plus de 30 000 manifestants ont manifesté lundi à Bruxelles. Mardi, ils étaient dans les rues de Liège. Des écoles étaient en grève, pas toutes, mais on a bien senti, mesuré une forte mobilisation. Il faut dire que les motifs de mécontentement ou d'inquiétude sont nombreux, dirigés contre la nouvelle majorité MR, les engagés au pouvoir depuis les élections de juin dernier.
Et les enseignants dénoncent notamment, Jacques, des mesures qui visent l'enseignement qualifiant.
La fin des petites options, qui attire peu d'élèves, à la baisse des normes d'encadrement et la fin aussi de la 7e année en technique de qualification. Les élèves diplômés au terme de la 6e année devront ainsi se tourner vers d'autres filières de formation pour adultes, comme par exemple l'enseignement supérieur ou la formation en alternance, inacceptable pour ces professeurs dans la manifestation.
On ne comprend pas très bien pourquoi nos élèves, qui finalement sont des élèves en difficulté, qui ont rechoisi quelque part une voie qualifiante, donc il leur permet d'avoir un métier, et là on leur dit, ben, quelque part, votre formation, soit elle perd de sa valeur, en tous les cas, on ne permet pas de vous former complètement, et donc toutes les possibilités qu'on donnait d'accès supplémentaire, on les supprime.
Ils vont devoir partir vers un autre type d'enseignement, en tout cas pour certains, mais toutes les options ne sont pas disponibles en promotion sociale. Donc c'est catastrophique pour ces élèves.
Les manifestants dénoncent encore la fin des nominations remplacées par des contrats à durée indéterminée. La ministre de l'Éducation, elle, appelle à la concertation. Elle tempère ses critiques, dénonce des contre-vérités. Aucun parcours d'élève ne sera cassé, affirme Valérie Glatigny. Mais deux jours de grève consécutifs, ce n'était plus arrivé depuis les années 90. Preuve que l'incompréhension est grande entre les acteurs de l'enseignement.
Enfin, la Joconde sera bientôt plus chère pour les non-européens. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci se trouve au Louvre, à Paris. C'est le musée le plus fréquenté au monde, avec près de 9 millions de visiteurs l'an dernier. C'est en fait deux fois plus que ce qu'il ne peut accueillir, d'autant que le Louvre est en mauvais état. Il y a des infiltrations, des variations de température qui menacent la conservation de certaines œuvres. Le président Macron annonce un plan de rénovation d'ici 2031, avec une nouvelle entrée plus grande pour faire face à l'affluence. Et dans ce cadre, la Joconde aura une salle à elle, entièrement dédiée pour être mieux présentée au public et avec un billet à part. Et les touristes non européens paieront plus cher pour voir Mona Lisa dès l'année prochaine, autour de 30 euros au lieu de 22 actuellement. Alors qu'en pensent les touristes non européens? Laurent Kramer leur a posé la question pour Ici.
Pourquoi payer plus cher que les Européens pour voir la Joconde? Ces deux étudiants coréens s'interrogent, puis répondent que ce n'est vraiment pas très sympa.
Ça dépend si c'est pour que le musée soit en meilleur état, pourquoi pas?
Michael, lui, vient de Miami.
30 euros, ça passe, mais pas plus.
Car Paris est déjà une ville chère, avancent les touristes sud-américains.
L'entretien de ce musée doit coûter cher. Ah, mais 30 euros, c'est une somme. Ça me rend triste.
C'est cher, 22 euros, c'est bien déjà, non? C'est excessif, 30 euros, je trouve.
Mais l'idée de voir la Joconde différemment enthousiasme néanmoins tous ceux qui ont mal vécu leur visite au musée du Louvre, comme Takumi, étudiant japonais.
C'était bondé. Et je n'ai pas pu faire de belles photos avec tous ces gens devant moi. Donc payer pour une expérience beaucoup plus belle que ça, je suis partant.
Oui, je paierais volontiers beaucoup plus cher.
Anna vient des États-Unis, sa visite de la Joconde n'est pas non plus un bon souvenir.
Oui, il y avait trop de monde et il a fallu être très patient. Et on n'a pas vu grand-chose, donc dépenser un peu plus pour la Joconde est justifié.
Mais il faudra patienter jusqu'en 2031 pour voir la Joconde dans cette nouvelle salle. Les tarifs, eux, augmenteront dès l'an prochain.
Reportage de Laurent Kramer à Paris pour Ici. On va donc refermer l'accent des autres à Paris cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Pierre Anchoffa vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'accent des autres avec les médias francophones publics.